Mimi, tu répètes toujours les mêmes histoires.
Normal, c'est vendredi, c'est le best-of.
Vous savez, il y a des rendez-vous qu'on ne note nulle part, qui ne s'inscrivent dans aucune case, pas même dans nos agendas numériques toujours trop pleins. Des rendez-vous qui arrivent tout seuls, à l'heure où l'on attrape son manteau, où l'on renverse un peu de café, sur le bord du bureau, impatient de se sauver. Des rendez-vous avec des voix qu'on ne connaît pas vraiment, enfin, pas pour de vrai. On ne sait pas comment elles s'habillent, comment elles se tiennent, comment elles marchent, si elles mangent salées le matin, ou si elles ont quelqu'un qui les attend le soir. On ne sait rien, et pourtant elles reviennent, fidèles. Elles nous accompagnent dans les embouteillages, dans la file du supermarché, parfois le matin, parfois le soir, selon nos moments clés à nous. La radio, c'est ça, une sorte de complicité anonyme, un flirt platonique entre inconnus qui se parlent sans se voir. Un fil invisible, mais bien là, qui relie des gens qu'aucun plan de table ne réunirait jamais. Et parfois on se dit, tiens, si j'éteignais, il manquerait quelque chose, comme une petite voix. Une présence, une petite lampe d'appoint allumée dans un coin de bureau, ça y ressemble. Alors bienvenue dans ce rendez-vous-là, celui qu'on ne coche pas mais qui existe quand même, celui où des voix, les nôtres, les vôtres, se croisent, se frôlent et parfois se rencontrent finalement vraiment. C'est le best-of de votre émission quotidienne, je suis Margot et aujourd'hui on retrouve Alexandre Chassagne et Charline Galpin. C'était notre entretien de lundi qui nous présentait le vague événement qui aura lieu ce week-end à Laval. Écoutez. Et c'est sur l'autre radio. Ce week-end, Laval accueillera la troisième édition du VEG événement, les 15 et 16 novembre au bâtiment 13 du quartier Ferrier, un salon convivial autour de l'alimentation végétale qui met en lumière ses atouts du point de vue écologique, animal et santé. Au programme des conférences tout au long du week-end, des stands de dégustation des pâtisseries végétales, mais aussi la présence d'associations bien connues comme L214, Sea Shepherd ou encore les refuges Groin-Groin et Le Repère. Et puis parce qu'il s'agit aussi d'un moment festif, un concert du groupe lavallois Inside the Inside viendra clôturer la journée du samedi soir. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Charline Galpin, présidente de l'association qui organise l'événement, et Alexandre Chassagne, trésorier de l'association. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec
nous. Bonjour. Bonjour.
Alors pour commencer, comment est née, si on peut le rappeler à nos auditeurs, cette aventure du VEG événement ici à Laval? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cet événement?
Alors en fait, ça part de presque rien en 2023. C'était un ami auteur qui avait lancé son livre qui était à Angers. Moi donc qui fais déguster plutôt la nourriture qui suit à Laval. Et on avait à l'époque quelqu'un de Grenoble qui était prêt à venir pour faire déguster des produits. Et au final, on s'est dit, bon bah, quitte à être déjà trois, on va essayer de trouver un lieu parce que clairement, là où, enfin chez nous, c'est pas suffisant comme lieu. Et on avait pu faire à l'époque, c'était l'Ouvrette Café, et on avait eu déjà donc Sea Shepherd, etc., enfin des assos qui étaient venus. Et on testait vraiment comme ça un dimanche après-midi sur quelques heures, et en fait, mais vraiment, ça a été. Enfin, vraiment, il y a eu du monde toute l'après-midi, et vraiment beaucoup de retours positifs, plein de gens qui venaient, qui étaient curieux du fait que ce soit gratuit et des dégustations gratuites, c'est vraiment un bel atout. Les conférences gratuites, c'est vraiment chouette. Et du coup, bah, on s'est dit, l'année d'après, bah, on va créer une asso et on va faire ça plus carré, plus gros. Et cette année, c'est encore plus gros.
Mais oui, puisque trois ans plus tard, vous en êtes donc à la troisième édition. Qu'est-ce qui, selon vous, explique justement ce succès et la fidélité du public autour de ce salon? Ce sont des questions finalement actuelles aujourd'hui. Les questions d'alimentation sont essentielles.
Ouais, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ça, notamment sur le point de vue, je pense, écologique qui impacte un peu tout le monde. Et puis, bah, nous, on veut vraiment que ce soit voilà, convivial, familial. Donc, y a aussi, on prévoit un petit stand pour les enfants, voilà, ce genre de choses. Le but, c'est de faire déguster un maximum de produits et que les gens repartent et se disent, mais en fait, y a pas que des graines et de l'herbe. En fait, y a plein de produits super bons. Et voilà, je pense que ça attire énormément de monde pour ça. Le fait que ce soit gratuit aussi. Et donc nous, on est super contents de ça. Et puis on verra si on continue l'année prochaine. Il y a de fortes chances que ce soit le cas.
Oui, puisque la programmation se densifie. On va en parler dans quelques instants. J'ai envie de parler d'abord d'un prélude qui a lieu le 14 novembre.
C'est ça. Donc le vendredi 14 novembre à 19h à la FNAC. Donc on a des partenariats un peu comme ça dans la ville. Donc merci à la FNAC notamment pour ça. C'est Teresa Moya qui est l'autrice de Vegan Food, Art and Rock'n'Roll. Et ça a été la fondatrice de Eastside Burger, le premier restaurant français de burger, c'est quand même quelque chose qui était très intéressant en 2013, et elle a un engagement très fort, social, politique, etc. Beaucoup d'art aussi, elle a fait beaucoup intervenir des graphistes pour faire les affiches de ses burgers, ce qui est plutôt original aussi. Donc elle va venir nous parler de son livre et de son parcours à la FNAC, c'est gratuit, c'est à 19h le 14.
Et alors l'événement s'articule, on le disait, autour de l'alimentation végétale, mais avec une approche assez large, puisqu'on y parle d'écologie, d'éthique, de santé. Comment est-ce que vous construisez l'équilibre entre ces trois aspects ?
Bien, on a vraiment un pôle associatif avec pas mal d'associations engagées dans la protection de l'environnement, notamment Sea Shepherd, qui lutte pour la protection des océans, hein, notamment. On a donc L214, qui est plus le repère et le refuge Groingroing, qui sont des sanctuaires animaliers, donc eux vont parler un peu plus du bien-être animal, de la protection des animaux. Et puis après, on a toute la partie commerciale avec des artisans qui vont proposer leurs produits à faire déguster ou bien sûr à acheter. Et on a ensuite donc voulu étoffer un petit peu les conférences. Donc là, cette année, il y a plus d'une douzaine de conférences sur ces sujets-là, et notamment aussi sur le point de vue de la santé, parce qu'on a donc à cœur de montrer qu'on peut être en bonne santé et manger végétal. Donc moi, par exemple, je parlerai de mon expérience d'ultracycliste. Donc je fais du vélo à assez haut niveau en tout amateurisme, mais je fais des très longues distances à vélo et tout en étant végétalien, et je ne manque pas d'énergie, au contraire. On aura aussi une diététicienne nutritionniste le samedi, et une autre aussi le dimanche, qui vont parler de sujets légèrement différents pour nous montrer justement les erreurs aussi à éviter, hein, lorsqu'on devient végétalien ou qu'on tend vers ça. Et on aura aussi des médecins qui vont intervenir, notamment pour parler de l'alimentation végétale chez l'enfant, ou bien d'essais, par exemple, d'alimentation végétale à la polyclinique du Maine, donc très locale ici à Laval. Voilà, donc tous ces sujets-là qui seront abordés, et ça permet d'avoir un panel de sujets sur l'alimentation végétale et de pouvoir en savoir plus sur ce monde-là, quoi.
Et alors, parmi les conférences aussi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y aura une médecin spécialisée en pédiatrie, alimentation végétale chez l'enfant. C'est-à-dire, effectivement, on peut le rappeler que dès le plus jeune âge, on peut avoir cette alimentation et que tout se passe bien.
Oui, c'est ça. Et même les personnes enceintes, on en connaît pas mal qui ont fait leur grossesse en étant végétalienne et il n'y a eu aucun problème. Mais l'idée, comme d'habitude, c'est déjà aussi de prendre le cas de chacun, puisqu'il faut peut-être aussi regarder là où on est, comment on se sent, etc. Puis savoir aussi adapter, mais donc se renseigner et avoir les informations, c'est ce qu'il y a de primordial. C'est pour ça qu'avec les conférences, c'est génial, on va pouvoir donner ces outils-là aux gens, quoi.
Et alors on le dit et on le répète, l'objectif c'est d'en faire un moment convivial. D'ailleurs, donc le samedi soir, on termine la journée avec un concert.
Oui, c'est ça. Donc le but, c'est vraiment, c'est pas de faire du prosélytisme, hein, comme je disais, c'est pas de, on cherche à convaincre personne, absolument personne. On veut juste montrer qu'on est là, qu'on existe déjà, et que on est en très bonne santé, on fait du sport, on fait des actions, etc. Qu'on a bien sûr des opinions sur certains sujets, et on veut aussi expliquer la nature de ces opinions. Et après, chacun est libre, et aussi le montrer que par les dégustations qu'on mange très bien et que c'est absolument délicieux, certaines pâtisseries ou certains plats. Et donc on termine, la journée du samedi soir se termine par un concert de mon groupe de musique, parce que dans les textes j'y parle notamment de bien-être animal, un peu de d'éco-anxiété aussi, des sujets qui me touchent, qui m'ont touché particulièrement et qui me touchent encore. Et donc l'idée c'est de présenter un peu les musiques, et puis d'expliquer un petit peu les textes et de parler de tout ça, et puis de passer un moment convivial avec tout le monde aussi, peut-être de se déconnecter un peu de l'ambiance salon, et plus de passer un moment entre amis, puis pouvoir discuter, etc.
Oui, parce qu'on sera tous sur nos stands toute la journée, donc le petit concert, ça peut être sympa pour se retrouver.
On entend parfois encore donc des préjugés sur le véganisme ou l'alimentation végétale. Est-ce que vous sentez que les mentalités évoluent, notamment ici en Mayenne ?
Oui, alors bah, moi déjà en tant que traiteur vegan, je suis installée depuis 2018, donc ça veut bien dire que ça fonctionne. Et ce qui est chouette, c'est que, je l'ai déjà dit, plus de 90% de mes clients ne sont même pas végétariens. Ce qui compte, c'est justement plutôt l'approche, si c'est généreux, si c'est gourmand, si c'est fait à partir de produits bien sourcés, etc. Bah, il n'y a pas de raison que ça ne plaise pas. Donc c'est ça qu'on a envie de montrer aussi, parce que par contre, la restauration en France, c'est compliqué et on a du mal à manger quand on va dans des restaurants un peu partout en France, alors que tous les autres pays, c'est hyper facile. Donc on voudrait aussi, et si on pouvait, ce serait chouette, toucher des restaurateurs qui se disent « Ah bah ne serait-ce que faire une option, en fait, une option végane, ça permet à tout le monde de manger, qui peut le plus, peut le moins. Donc en faisant du végane, tout le monde peut manger. Donc si y a une ouverture et qu'ils voient ce qui se fait, bah, ça peut peut-être nous permettre de pouvoir entrer dans certains restaurants et de consommer là-bas aussi, en fait. »
Ouais, il faut savoir aussi qu'en France, on est quand même globalement pas mal en retard sur la question végétale, et que par exemple au Royaume-Uni, dans tous les restaurants, il y a des options et les gens sont hyper bienveillants avec ça, quoi. Il y a pas de jugement ou quoi que ce soit. Alors qu'en France, il y a quand même des grosses réticences chez certaines personnes. Et voilà, c'est aussi ça qu'on veut casser un petit peu. Voilà, ouvrir cette porte et dire bah voilà, faites en sorte que ce soit possible pour tout le monde, que ce soit accueillant, bienveillant et de pouvoir, nous, qu'on puisse consommer partout et que ce soit quelque chose qui devienne un petit peu la norme, quoi.
Si l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute a très peu de temps ce week-end et se dit « bon, j'ai quand même envie d'y faire un tour », quel événement vous lui conseillerez, quelle conférence vous attendez peut-être le plus ou amène quelque chose d'un peu plus nouveau qu'on entend peut-être un peu moins, si là quelque chose vous vient?
Bah, il y a une conférence qui va être à mon avis assez intéressante. C'est Gladys qui a couru de Paris à Brest en étant végétalienne et qui allait rencontrer justement des éleveurs pour leur parler de bien-être animal et un petit peu voir ce qu'ils en pensaient, mais vraiment sans avec toute bienveillance qu'elle est et vraiment c'est vraiment un échange très 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 sympathique et juste un échange de points de vue et je pense que ça va être assez intéressant, ouais, voilà.
Quelques jours de l'événement, on se sent comment? Puisque là on a une programmation qui s'est vraiment enrichie.
On a hâte, un peu stressé aussi parce qu'il y a tout qui arrive. Là, j'ai l'impression d'être un mondial relais du véganisme à la maison puisque je reçois les colis des livres des auteurs, les produits à déguster des marques. Et à la fois, c'est super chouette de voir justement la maison se remplir de tout ce qui va être sur le véganisme. Et on a hâte, on a déjà pas mal de retours de gens puisqu'on peut cette année réserver les conférences, notamment par message auprès de nous. Donc on voit qu'il y a aussi, que les gens ont hâte aussi d'y aller. Donc c'est surtout hâte, moi je dirais.
Ouais, on a hâte de participer, de vivre l'événement. Là, on est en plein dans les starting blocks, donc dans l'organisation, ça fuse de partout. Comme on disait, les réservations, on prend les réservations pour les conférences, donc faut pas hésiter à nous envoyer des mails. Ça se remplit petit à petit. Comme on a une place limitée dans la salle, c'est quand même mieux de réserver pour être sûr d'avoir sa place. Mais pour nous, on a très hâte de vivre cet événement et puis de rencontrer tous les gens qui sont intéressés par ça.
Oui, si je peux rajouter aussi, il y a quelque chose qui est chouette cette année, c'est qu'on a réussi à avoir des gens qui viennent d'un peu partout en France. Donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'on a des gens qui viennent de Perpignan, d'Avignon, Strasbourg, Paris, Nantes, enfin, c'est vraiment très très large, donc ça va être vraiment chouette aussi de se rencontrer puisqu'on voit sur les réseaux mais on s'est jamais vu en vrai, donc c'est le fait de passer ces moments aussi conviviaux avant et après le véganisme, peut-être c'est chouette de voir qu'il y a des gens qui portent les mêmes choses que nous ailleurs et qu'on se retrouve à Laval, c'est plutôt sympa.
Pour retrouver l'ensemble de la programmation, où est-ce que ça se passe ?
Eh ben, on faut retrouver ça sur nos réseaux ou dans les affiches, dans les commerces à droite à gauche à Laval. On a mis un petit QR code pour à scanner où il y a tous les liens pour avoir le planning complet de l'événement. Et il y a toutes les informations pour réserver aussi chez les commerçants. On peut réserver aussi dès à présent les pâtisseries qu'on aimerait pour éviter qu'il n'y en ait plus le moment où on arrive, par exemple. Tout est indiqué sur le petit planning qu'on a mis un petit peu partout et notamment sur nos réseaux sociaux à Vegan en Mayenne, donc sur Instagram, sur Facebook.
Est-ce qu'on donne l'adresse mail sur laquelle on vous contacte?
Ouais,
on
peut
réserver.
Donc c'est VG, donc les lettres V et G, en Mayenne, tout attaché @gmail.com.
Et donc, on vous retrouve sur les réseaux sociaux et le rendez-vous que vous nous donnez pour tout renseignement, pour venir à votre rencontre, pour rencontrer tout le beau monde que vous avez invité. Eh bien, c'est le 15 et le 16 novembre au bâtiment 13, quartier Ferrié, ou le 14 novembre à la FNAC de Laval.
C'est ça.
C'est ça.
Merci exactement. À tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci.
Merci, merci beaucoup.
C'est le moment où l'on écoute ceux qui passent leur journée entourés de mots, de couvertures, d'histoires. Voici le coup de cœur des libraires, celui qu'ils ont choisi de défendre sur les ondes de l'autre radio.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour, je vais vous parler du nouveau livre de Gilles Marchand. Gilles Marchand a connu un très gros succès en librairie avec son roman précédent. Si je vous parle du Soldat désaccordé, ça vous dit quelque chose ? Précipitez-vous sur ce livre parce que c'était un excellent livre. Eh bien, nous l'attendions avec impatience. Le nouveau livre s'intitule « Les promesses orphelines ». Toujours aux forges de Vulcain, petit éditeur, mais toujours avec des textes très singuliers. Gilles Marchand, c'est de la littérature grand public et très agréable, à la fois divertissante et puis touchante, émouvante. Dans ce nouveau livre, nous allons être dans les fameuses 30 glorieuses qu'ont connues la France, qu'a connue la France. Nous allons suivre un jeune qui s'appelle Gino. Gino, il est de classe sociale plutôt très moyenne. Et c'est un jeune qu'on va suivre dans son évolution. Comment cet homme qui fait des petits boulots, comment va-t-il vivre ces 30 glorieuses ? Il va la vivre avec des rêves d'amour, avec des rêves professionnels, avec des rêves de progrès, puisque c'est toute une période où la consommation en France va exploser. Ça va être son amour pour Roxane, donc on va le suivre dans ça. Ça va être ses rêves liés à ce projet ferroviaire incroyable que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelait l'aérotrain et qui a vu le jour du côté d'Orléans. Alors c'est un livre très attachant, c'est un livre d'initiation, d'un livre de formation, comme je les aime, à savoir qu'on se met à la place du personnage et on grandit avec lui. Alors, c'est un livre très agréable à lire, accessible et surtout bourré de tendresse. Ça s'appelle « Les promesses orphelines ». C'est le nouveau livre de Gilles Marchand.
Retrouvez « Aime lire » en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier ou et sur l'autre radio.
Alors nous voilà donc arrivés au moment de la chronique de la Ligue des droits de l'homme. Et donc c'est Loïc Bedouet qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Loïc.
Oui, bonjour.
Alors, les affaires judiciaires médiatiques se multiplient. La justice est de plus en plus sujet à polémique. Alors, qu'en est-il vraiment ?
Eh bien, dans la 14e vague du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, le CEVIPOF qui est le centre de recherche politique de Sciences Po, seulement 43% des personnes interrogées disent avoir confiance dans la justice en France, un taux en dessous du pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni.
Comment ça s'explique ?
Eh bien, cela donne la mesure de l'insatisfaction à une institution qui a de plus en plus de difficultés à assurer correctement ses missions. Manque de moyens, lourdeur, injonctions contradictoires, réformes autoritaires qui se succèdent, autant d'éléments qui entravent le fonctionnement de la justice et nuisent à son efficacité, tandis que les juges, tantôt taxés de laxisme, tantôt de politisation, voient régulièrement leur légitimité contestée. Pourtant, la justice est un pilier de notre démocratie, avec pour mission de garantir nos droits et nos libertés.
Une raison parmi d'autres alors de nous interroger sur l'état de cette justice.
Exactement. Les juges appliquent la loi votée par le Parlement et l'article 64 de la Constitution fait du président de la République le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Alors revenons par exemple sur l'affaire Sarkozy, condamné en première instance pour association de malfaiteurs. Il n'est pas question ici de porter un avis sur le contenu du jugement. Il y a eu condamnation, il y a appel comme le droit français l'y autorise, la justice suit son cours, dont acte. Mais pour autant, il est choquant que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, attaque les magistrats. En les ciblant, il les expose. Et ainsi, la présidente du tribunal l'ayant jugé au sein d'une formation collégiale a reçu des menaces de mort et est désormais placée sous protection policière. De telles attaques, au-delà du fait qu'elles sont inadmissibles, contribuent à la fragilisation de la justice. De même, certains responsables politiques s'indignent de l'exécution provisoire de la peine de Nicolas Sarkozy, ce dernier étant présumé innocent tant que le jugement n'est pas irrévocable. Il s'agit là pourtant que de la simple application de dispositions légales qui n'est certes possible de critiquer, mais qui ont été votées par le Parlement et qui n'a jamais été d'ailleurs remis en cause par ce dernier lorsqu'il était ministre de l'Intérieur ou président de la République et qu'à l'époque, il tensait le supposé laxisme des juges. Une fois de plus, un responsable politique demande de bénéficier de privilèges et a échappé à la rigueur de la loi. Attitude qui contribue également à jeter le discrédit sur la justice. Alors plutôt que de crier atteinte à l'état de droit, réjouissons-nous plutôt de l'indépendance de la justice, pilier de ce même droit.
Mais ces attaques envers l'institution judiciaire sont-elles un phénomène nouveau, propre à notre époque ?
Eh bien non. Non, effectivement. Henri Leclerc, ancien avocat, ancien président d'honneur de la LDH décédé il y a peu de temps, il l'écrivait dans un numéro de Droit et Liberté, le journal de la LDH. Je cite « La justice était déjà sous l'Ancien Régime sujette à critique. Le roi luttait contre les parlements locaux auxquels il avait délégué la fonction de juger. Et Louis XVI, par exemple, avait dû forcer la main du Parlement de Paris pour donner force à la loi de décision de supprimer la torture judiciaire qu'on nommait à l'époque la question. » Cependant, il faudra attendre les déclarations de droits de l'homme de 1789 et son article 16 pour affirmer l'exigence constitutionnelle de la séparation des pouvoirs et la nécessité de garantir les droits. Montesquieu était alors dans les têtes. Et la justice devenait un pouvoir séparé et donc indépendant du législatif et de l'exécutif. La Révolution renversera donc l'ancienne justice. Nombre de responsables politiques feraient bien de s'en souvenir aujourd'hui, plus de 200 ans plus tard.
Alors comment redonner confiance envers la justice et inverser le sondage du CVPOF ?
Eh bien, en 2021, 3000 magistrats et une centaine de greffiers ont publié un appel intitulé « Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout ». Le 8 octobre de la même année, Emmanuel Macron lançait au Futuroscope de Poitiers les États généraux de la justice. Ces derniers instaurèrent un comité qui rendait ses conclusions en juillet 2022 dans un rapport de plus de 200 pages intitulé « Rendre la justice aux citoyens ». Donc, 3 ans plus tard, faut-il conclure que ces États généraux n'étaient, comme ce fut le cas par le passé, de tant de projets de réforme proposés par de savantes commissions qu'un simulacre pour justifier l'immobilité du système, ou au contraire, comme il faut l'espérer, un véritable moyen de rénover l'institution judiciaire ? En tout cas, aujourd'hui, il y a matière à réfléchir et à développer des pistes de rénovation. Elles existent. Aux responsables politiques de s'en saisir pour que la confiance en l'institution judiciaire renaisse. Mais de toute façon, cela ne se fera pas sans moyens supplémentaires. La justice intervient dans toutes les activités sociales et son bon fonctionnement est une garantie pour toutes et pour tous de pouvoir faire valoir ses droits. Le juge judiciaire, c'est le gardien de la liberté individuelle. Il doit également protéger la vie privée à chacun d'entre nous. Donner aux professionnels les moyens d'exercer leur mission afin de consolider une justice ancrée dans la réalité du XXe siècle, telles devraient être les priorités des responsables politiques, plutôt que de jeter l'opprobre sur des juges quand l'un des leurs se trouve en position d'accusé. C'est à ce prix, je pense, que la confiance de citoyens sera au rendez-vous.
Merci beaucoup Loïc, la chronique est à retrouver en podcast sur le site de l'autreradio.fr. À très bientôt Loïc, merci. Vous écoutez toujours le best-of de l'AJT du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. On enchaîne avec Magnette, sa chronique arrive comme toujours avec ses petites étincelles sonores dont lui seul a le secret.
En ce lendemain du 11 novembre, je vous propose une excellente chronique de Magnette qui date de février 2024 sur la solitude.
La chronique de Magnette sur le contrôle.
Bonjour toi, c'est curieux mais... Dès que l'on évoque le terme de solitude, nous sommes nombreux à penser illico à celle qui fait mal, comme si ça allait de soi. Or, l'éventail des solitudes n'a rien à envier à celui des silences. Bien sûr qu'elle existe, cette solitude subie, accablante, voire cruellement douloureuse. Mais il en est d'autres. Volontaires, recherchée, indispensable, soulageante, jouissive même. Ah, tu me diras que je confonds peut-être avec l'isolement, que ce dernier reste provisoire. J'aimerais te donner raison. Toutefois, j'ouvre les yeux et les esgourdes et constate que le phénomène pousse un peu partout et se répand comme les racines de bambou, cette plante qui bat tous les records dans le monde végétal. Ok, beaucoup d'artistes et plus encore d'écrivains, femmes ou hommes, ne se voient nullement œuvrer hors de leur bulle. Un bureau dans une pièce ou un atelier où ils n'aiment guère être dérangés. Un autre monde où il vaut mieux prendre rendez-vous. À propos de monde, as-tu déjà invité toute une marmaille, un flot de gamins à l'anniversaire de ta princesse, de ton fiston chéri? Tu t'es appliqué à la déco, à lister des jeux collectifs, à préparer un goûter rabelaisien, à trouver des chansons qui font mouche. Bientôt, c'est l'invasion. Ça piaille, ça chiale, ça rigole. La ruche bourdonne de partout. Et enfin, les parents sonnent pour récupérer leur rejeton. La baraque se vide, et toi, encore plus vide, écroulé sur ton canapé, tu ne vois plus que ce morceau de gâteau copieusement écrasé sur le tapis. Même à deux, en voilà une de ces solitudes qu'elle est soulageante. Plus savoureuse que ce reste de tarte poudrée de confettis. Un an de répit. De cet enfin à l'interminable, les solitudes sont diverses et variées comme les humeurs. En vrac, je pense au photographe animalier qui se les gèle en poireautant dans la neige, un terrier dans l'objectif afin de ne surtout pas rater la sortie d'un lapin blanc. Le mec n'est pas un magicien, alors il se tait. Il attend. Il est seul. Un bizarre hasard s'est produit. Je me lance sur ce sujet de solitude au pluriel et tombe sur l'hebdo, le 1, dont c'est le thème, les solitudes. Je me répète, je ne crois pas au clown hasard. J'y retrouve Bouddha, Diogène le cynique, Saint Antoine du désert, Alexander Selkirk, c'est le modèle de Robinson Crusoe abandonné seul sur une île durant 4 ans, le jeune Caspar Hauser qui réapparaît sans savoir ni parler ni marcher, séquestré depuis l'enfance, Dreyfus sur l'île du diable, le soldat Hiro Onada, qui s'enfonce dans la jungle, refusant de croire à la capitulation du Japon jusqu'en 1974. Personnellement, j'aime le choix de Moitessier, sacré Bernard, qui en 1968 se détourne d'une route en solitaire qu'il est prêt de gagner pour voyager où bon lui semble. Mais revenons au Japon, puisqu'il est malheureusement toujours en tête d'un phénomène qui touche maintenant presque le monde entier. Des jeunes qui se retirent de la société pour vivre seuls dans leur pioule. Les hikikomori. Le mot a failli être drôle. Un rescapé de ce mal, après presque 3 années enfermé, d'autres le sont depuis beaucoup plus longtemps, parle de la Covid, des guerres et de la menace climatique, imminente. À quoi bon sortir ? La vraie vie du dehors, pas vraiment désirable. Un bien-être nulle part. Ça me fout des frissons de savoir toute une jeunesse se replier sur le virtuel. Des jeux vidéo et autres réseaux chers aux complotistes. Vite, un plumeau magique. Ouvrons grand les fenêtres. Touche-moi, pince-moi, t'es où ? J'arrive. Ça te dirait une paella ? Ah, tu préfères un chili con carne ? T'as pris les places pour le festival ? T'es avec nous pour la méga surprise à Joséphine ? Je compte sur toi à ce moment des déménagement. Ah, y a plein de pommes à ramasser. Un aller-retour histoire de bouffer des moules. T'es partant ? Viens me donner un coup de main pour le vide-grenier. J'ai une armoire normande à vendre. T'as toujours ton vieux clou ? Fais gaffe, l'expo touche à sa fin. Tu cherches toujours un batteur pour ton groupe ? Pour l'AG, je passe te prendre, etc., etc., extérieur, capette.
La solitude, ça n'existe pas. 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 Chez moi, il n'y a plus que moi. Et pourtant, ça ne me fait pas peur. La radio, la télé sont là pour me donner le temps et l'heure. J'ai ma chaise au café du Nord. J'ai mes compagnons de flipper. Et quand il fait trop froid dehors, je vais chez les petites sœurs des cœurs. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Peut-être encore pour quelques loups, quelques malheureux sangliers, quelques paladins, quelques fous, quelques poètes démodés. Y'a toujours quelqu'un pour quelqu'un. Y'a toujours une société. Non, ce n'est pas fait pour les chiens de club Méditerranée, hein. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. Tu te trompes, petite fille, si tu me crois désespérée. La nature a horreur du vide et l'univers t'a remplacé. Si je veux, je peux m'en aller à White, à Woodstock ou ailleurs, et y retrouver des milliers qui chantent pour avoir moins peur. La solitude, ben ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas.
La solitude, ça n'existe pas. La solitude, ça n'existe pas. J'ai une photo avec lui, moi.
Ah oui ?
Quand j'étais gamin.
Ouais. Où ?
Elle était loin, dans les loges à Vichy.
La chronique de la planète. Sur l'eau.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. C'était le best-of de votre émission quotidienne. Et avant de se quitter, on regarde quand même ce qui nous attend aujourd'hui sur les ondes de l'autre radio. Votre soirée commence à 19h avec un peu de nostalgie puisque ce sera l'émission Dance Hall Social Club qui nous plonge dans nos petits plaisirs coupables musicaux du passé. Tout de suite à 13h, c'est l'émission Cinérama au programme 3 cinéastes dont 2 femmes. Alex Poukine pour son film Kika, Mélissa Drijard pour Le Gang des Amazones et puis Tariq Salé pour Les Aigles de la République. Évidemment, ces entretiens seront accompagnés de chroniques pour aller encore un peu plus loin sur les actualités du grand écran. Et puisque ça bouge aussi sur les ondes de l'autre radio le week-end, sachez que samedi à 13h, l'émission Rock Dreams fait un focus sur l'artiste Christophe, décédé en 2020. Une journée toujours plutôt musicale pour commencer le week-end, puisque à 18h, vous écouterez Rock à la Casbah, suivi de Radio Vedette. Le dimanche, un peu plus sportif à 11h, puisque Sport Épique avec Benoît revient sur les ondes, avant de terminer en beauté ces deux jours avec un voyage à domicile proposé par Jazz Attitude à partir de 21h. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission. Nous découvrirons la nouvelle saison de Lecture en tête avec Anne-Sophie et Alexia. D'ici là, restez au chaud ou sortez couverts, profitez et s'il vous plaît, faites-le bien.
Chut, ça s'éteint.
Jusqu'à demain, Mimi.